Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Il y a un verset biblique que j'aimerais lire avec vous, dans Philippiens 1, verset 27 jusqu'à 28. Voilà ce que Paul va dire aux Philippiens. Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne et que je vous voie, soit que je sois absent, j'apprenne à votre sujet que vous tenez ferme dans un seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme avec la foi de l'Évangile et n'étant en rien épouvanté par les adversaires, ce qui pour eux est une démonstration de perdition, mais de votre salut, et cela de la part de Dieu. Paul dit là aux Philippiens de tenir ferme dans un seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme avec la foi de l'Évangile, n'étant en rien épouvanté par les adversaires. L'Évangile du Seigneur est un évangile de combat. C'est pas un évangile à l'eau de rose, c'est une implication de nos vies dans un combat. Souvenez-vous ce que le Christ a dit à Paul sur le chemin de Damas, quand il lui a donné les clés de l'évangélisation. Il lui a dit ceci, « Voici, je t'ouvre les yeux. » C'est-à-dire que nous devons avoir les yeux ouverts et non pas les yeux voilés. Ouverts sur la réalité spirituelle. Ouverts quant au combat qui est mené par l'Église. Ouverts contre les attaques que Satan dresse contre l'Église du Seigneur. Parce que le Seigneur nous a donné une affirmation en nous disant qu'il bâtirait l'Église et que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Et Satan a décidé, lui, de détruire l'Église. Vous vous souvenez? Il est venu pour faire la guerre aux saints. Qui sont les saints? Ce sont des hommes et des femmes qui sont nés de l'Esprit de Dieu et qui marchent en sainteté de vie avec le Seigneur, qui ont pris le chemin étroit, non pas le chemin large et spacieux, non pas le chemin du compromis où on peut jouir des choses du monde et des choses de Dieu en même temps. Ça, c'est ce que j'appelle le mélange et la confusion. Dans le royaume de Dieu, il n'y a aucune trace de l'Esprit du monde. Tout dit gloire, tout dit sainteté, tout dit paix dans le royaume de Dieu. Et Paul nous dit qu'il nous faut combattre, que nous sommes combattants ensemble d'une même âme. Voyez-vous, l'Église doit être une dans le combat. C'est pas l'affaire de spécialistes, le combat spirituel. C'est l'affaire de l'Église. Le combat spirituel n'est pas un ministère. Je ne vois nulle part dans l'Écriture qu'il y ait le ministère du combat spirituel ou le ministère de la délivrance. Il y a dans l'Écriture, n'est-ce pas, une chose qui est certaine, c'est que la libération fait partie de la vie normale de l'Église. La libération des âmes fait partie de la vie normale de l'Église. Que tu viennes du monde avec tout ton passé et toutes les choses que tu as pratiquées, tu as besoin que l'Église soit d'une même âme combattant pour ta vie, pour te voir sortir de tes situations difficiles. Si tu es chrétien et que tu es un chrétien qui a fait une approche du Seigneur, n'est-ce pas, mais sans marcher dans la voie que le Saint-Esprit a tracée, c'est-à-dire une vraie repentance, une vraie confession de péché, des choses qui sont claires dans l'Écriture. Si tu n'as pas fait ces choses et que tu es dans un combat, l'Église est là pour t'amener à être libéré. Si Jésus est venu pour libérer les captifs et délivrer les prisonniers, il lui a donné toute autorité pour faire les mêmes choses à son Église. Il nous a été dit que nous devrions même marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et sur les scorpions, et que rien ne pourrait nous nuire. Vous comprenez cela? Nous avons aussi compris que notre combat n'est pas contre les hommes, contre les femmes. Nous ne sommes pas contre les individus, nous devons les aimer. Mais notre combat est contre ce qui anime les personnes, ce qui est derrière les personnes. Comme derrière les idoles, il y a des esprits de démons, derrière des personnes, il y a des esprits qui manipulent les personnes. Soit derrière, soit à l'intérieur, bien sûr. Parce qu'il y a des possessions. Quand on s'est donné à Satan dans des pratiques très poussées d'occultisme, de spiritisme, Satan est venu t'habiter par sa puissance. Il a envoyé sa hiérarchie démoniaque pour te soumettre à sa volonté. Et son seul désir, c'est de te détruire. C'est pour ça que l'apôtre Paul va nous dire dans Éphésiens 6, je vous rappelle cette chose, que nous devons nous revêtir de toute l'armure complète de Dieu pour tenir ferme. Mais voilà, comment se présente un enfant de Dieu non revêtu de l'armure? Un enfant de Dieu qui ignorerait qu'il y a un combat spirituel et qui n'aurait pas revêtu son armure. Dans quelle situation il se trouve? C'est intéressant de voir que l'Écriture nous donne une foule de détails. Il est très exposé à croire aux mensonges de Satan à cause de son ignorance. Et là, ce soir, je voudrais vous dire, frères et sœurs, faites de la parole de Dieu vos délices. La parole de Dieu est une des armes offensives que Dieu nous a données. Comme la prière par l'esprit, c'est une des armes offensives. Il y a des armes défensives et des armes offensives. La parole de Dieu qui nous est donnée comme étant l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Donc un enfant de Dieu qui n'a pas revêtu l'armure complète de Dieu, il est très exposé à croire aux mensonges de Satan à cause de son ignorance. Frères et sœurs, à cause de l'ignorance de la parole de Dieu, nous allons commencer à croire selon nos pensées. Regardez bien que quand nous partageons un verset biblique, si je vous disais « Et maintenant, qu'est-ce que te dit ce verset biblique ?» La première chose que vous allez me dire, c'est « Je pense que c'est comme ça. » Et moi je dis « Tu ne penses pas que c'est comme ça. Tu dois penser ce que la parole de Dieu pense. » Non pas ce que tu penses, toi, l'interprétation que tu pourrais donner à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation, elle s'interprète elle-même. Dites amen à cela. La parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation particulière, elle s'interprète elle-même. Il y a suffisamment de versets qui vont venir conforter ce que tu vas dire. Un ou deux ou trois versets qui sont les témoignages de ce que tu es en train de dire. Donc, la première chose qui est un objet d'attaque de l'ennemi, c'est notre ignorance vis-à-vis de la parole du Seigneur. Qu'est-ce que disait David? David disait, mais ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier. C'est elle qui doit diriger ma vie. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire que ta parole éclaire ma vie. La parole de Dieu en moi va éclairer ma vie. Et je pourrais être en contradiction avec n'importe qui parce que je vais sortir de mon cœur la parole de Dieu. Tu ne me feras pas dire quelque chose contraire à ce qui est écrit dans l'Écriture. Si tu me dis « je pense que c'est comme ça », je te reprendrai. En te disant « non, c'est pas ça ». Que dit l'Écriture? Donc, cette ignorance, car il est exposé à croire au mensonge de Satan. Le contraire du mensonge, c'est quoi? C'est la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-moi par ta parole. Ta parole est la vérité. Et si tu veux être vainqueur des situations qui vont se présenter devant toi, tu as intérêt à avoir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Pour dire, comme Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit, Kétive, il est écrit. Jésus n'a jamais pensé à dire quelque chose à Satan qui sortait de ses pensées. Il s'est appuyé sur la parole de son Père, comme tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Deuxièmement, la vie d'une telle personne manque d'unité, de rectitude, parce qu'il ne sait pas se diriger. Qu'est-ce qui dirige ma vie? Qu'est-ce qui peut diriger ta vie, si ce n'est la parole vivante et permanente de Dieu, la bonne parole de Dieu? Tu as dans l'Écriture tout un tas de possibilités pour régler ta vie. Tu as dans l'Écriture tout un tas de versets bibliques qui vont diriger ta vie. La parole de Dieu, c'est comme un enseignement permanent pour ta vie. C'est la parole éternelle de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu. Et si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tu ne sauras pas diriger ta vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te rappeler toutes les paroles du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui te rappellera les paroles du Seigneur. À ce moment-là, te les rappelant, tu pourras rectifier ta route. Donc, une telle personne qui se présente comme un enfant de Dieu non revêtu de l'armure, non seulement il est exposé à croire au mensonge de Satan à cause de son ignorance, non seulement sa vie manque d'unité, de rectitude parce qu'il ne sait pas se diriger, mais sa vie est attristée par les querelles et les divisions. Un enfant de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il va tout faire pour éviter les divisions et les querelles. Je préfère me taire que de répondre à quelque chose qui pourrait me blesser. Parce que si je vais sur ce terrain-là, c'est ma chair qui va se manifester. Et j'ai envie de prendre du recul parce que j'ai entendu. Je prends du recul et je laisse le Seigneur travailler mon cœur et ma vie pour voir si moi aussi j'ai pas dit une bêtise. Mais si, comme au ping-pong, 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 tu vas te trouver sur le terrain de la bagarre, de la bataille. Cet homme, cet enfant de Dieu, non revêtu de l'armure de Dieu, il néglige de veiller et de prier. Il pense que les réunions d'église, c'est suffisant pour que sa vie soit agréée de Dieu. Mais tu te trompes, tu rêves. Si tu crois que c'est les 1h30 que tu viens de passer ici ou les 2h qui vont te donner le label, hein, poulet de France, hein, cacheté poulet de France, hein, poulet d'origine, ben moi je te dis, tu te trompes. C'est pas parce que tu viens ici dans cette église que tu as l'assurance d'être sauvé. C'est pas parce que tu es dans cette église que tu vas te dire ça me suffit de prier, hein, n'est-ce pas, dans l'église le mardi ou le vendredi quand je viens, ou que ça soit suffisant. Je te dis non, ta vie doit être une vie de prière. Quand tu es dans ta maison, tu pries. Le Saint-Esprit te met un chant, tu loues, tu adores le Seigneur. Et tu continues, tiens, viens, je pense à mon frère, je prie pour mon frère. Tiens, je pense à ma sœur, je prie pour ma sœur. Voilà quelqu'un qui est animé de l'Esprit-Saint. Et tu viens pas simplement pour dire, Seigneur, je te prie pour Philippe ce soir, mardi soir à 9h, je te prie pour Philippe pour qu'il aille mieux, etc. Si c'est que ce soir que tu fais ça, bon, tu lui en mets une petite couche. Mais ce qu'il veut, c'est le cataplasme de prière sur lui. Qu'il soit effondré sous la prière de ses frères et ses sœurs. Qu'il voit la victoire combattant d'une seule âme. Est-ce que vous avez oublié de prier pour ceux qui souffrent dans l'église? Pour ceux qui ont des combats? Ou vous priez que pour votre vie? Nous avons de prier les uns pour les autres. Un vrai enfant de Dieu revêtu de l'armure de Dieu, il est capable d'avoir sur son cœur les fardeaux que l'Esprit Saint lui met et de prier à tout moment, que tu sois en train de te raser, que tu sois en train de te laver, que tu sois en train de faire ta cuisine, que tu sois en train de faire ton lit dans ta maison. Si le Saint-Esprit te met ça sur ton cœur, tu commences à ouvrir ta bouche. C'est un style de vie, n'est-ce pas? Donc, cet enfant de Dieu qui n'est pas revêtu de l'armure complète de Dieu, il néglige de veiller et de prier, et il passe par le doute et par l'incrédulité. L'incrédulité, c'est contraire à la foi. Le doute, c'est contraire aux promesses du Seigneur. Dieu ne pourra pas faire ça. Bon, il m'a béni jusqu'à présent, mais ça là, il peut pas le faire. Alors tu confesses que rien n'est impossible à Dieu. Tu vois la différence entre confesser le doute et l'affirmation de la foi que rien n'est impossible à Dieu, c'est dans la victoire en confessant la parole du Seigneur. Sixièmement, cet enfant de Dieu non revêtu de l'armure, il se fie plus à sa raison qu'à la parole de Dieu. Moi, ce que j'ai vu dans l'Écriture, c'est ce que Paul disait. Il dit, ce que je veux, c'est que les hommes, en tout lieu, lèvent des mains pures devant Dieu et sans raisonnement. On a eu une prédication dimanche, je bénis le Seigneur pour ce qu'il nous a donné, les psychotiques du raisonnement. Les gens qui vivent par leur âme, je vous garantis que c'est un vrai désastre. Nous ne vivons pas par l'âme, nous vivons par l'esprit du Seigneur. Notre âme manque de régénération encore. Nous nous en apercevons, n'est-ce pas, dans nos vies quotidiennes. Nous avons encore besoin que le Seigneur transforme les sentiments de notre âme. Paul va nous inciter à être animés des mêmes sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Alors, regardez les fruits du Saint-Esprit et vous verrez la paix, la maîtrise de soi, n'est-ce pas, la tempérance, la bénignité, et je t'en passe, c'est des meilleurs. Faisons le listing et comparons-nous à ce listing et nous avons besoin de changer encore, frères et sœurs. Et septièmement, cet homme, cet enfant de Dieu non revêtu de l'armure, il compte sur son activité. Alors, on fait de l'activisme religieux. On fait plein de choses. Il néglige la prière. En tout cas, il ne se donne pas au travail de la prière. On peut compenser le manque de prière par un activisme religieux. Maintenant, regardons l'enfant de Dieu qui est revêtu de l'armure complète de Dieu. Dans quelle situation il est? Un, il est armé de la vérité. Il est armé de la vérité. La parole de Dieu est une arme puissante. Quand vous confessez la vérité, elle devient une arme puissante. Elle fait reculer tout esprit mauvais, tout démon. Elle fait reculer tout raisonnement. Elle fait reculer tous les entendements enténébrés de gens qui disent qu'ils sont au Seigneur et qui ont encore l'esprit enténébré par leur intellect. L'intellect ne se substituera jamais à l'esprit de Dieu. Deuxièmement, non seulement il est armé de la vérité, mais deuxièmement, il est intègre. Pas de cœur partagé. Pas un pied dans le monde, pas un pied avec le Seigneur. Comme a dit Élie au prophète, jusqu'à quand, c'est au prophète, non, il va dire ceci, jusqu'à quand allez-vous claudiquer des deux pieds, il parlait à Israël, le peuple. Ou si c'est Dieu, c'est Dieu, ou si c'est Baal, c'est Baal. Mais il n'y a pas 50% Baal et 50% Dieu. Il y a tout Dieu ou tout Baal. Il est intègre. Une intégrité de cœur, c'est un homme, une femme qui a un cœur droit. Pas de cœur tordu, un cœur droit. Vous comprenez que si on a un cœur tordu, on rentre dans la catégorie des chrétiens qui n'ont pas revêtu l'armure complète de Dieu. Et l'ennemi nous attend sur ce terrain-là. Troisièmement, l'enfant de Dieu revêtu de l'armure de Dieu, il procure la paix. Non seulement il la procure la paix, mais il vit lui-même en paix. D'ailleurs, s'il n'y a pas la paix dans ton cœur, vois pourquoi. Parce que Jésus a dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix afin que votre joie soit parfaite. Et s'il n'y a pas de joie et il n'y a pas de paix dans ton cœur, tu devrais te poser la question, pourquoi tu n'es pas en paix? Pourquoi tu t'agites? Voilà ce que dit David. Il va dire au psaume 42, verset 5, pourquoi es-tu abattu mon âme et es-tu agité au-dedans de moi? Est-ce que David, il va essayer de trouver un moyen pour son âme? Voilà ce qu'il va dire. Il va dire à son âme, dis à ton âme ce soir, attends-toi à Dieu.
Attends-toi à Dieu, car je te célébrerai encore sa face et le salut.
Quatrièmement,
il est vigilant. Et il y a un proverbe dans le monde qui dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et nous, enfants de Dieu, nous devons faire la différence avec les gens que nous côtoyons. Il est vigilant, il se conserve lui-même en toute pureté et se possède parfaitement. Il a la maîtrise de lui-même. Il se possède parfaitement. Il possède son vase en toute pureté. Cinquièmement, ce ne sont pas ses raisonnements qui sont son bouclier, mais son bouclier, c'est la foi. Une foi ouinte. Souvenez-vous que dans l'armure complète de Dieu, le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Un bouclier ouint. C'est un bouclier ouint. Un bouclier ouint de la foi. C'est un bouclier qui va te permettre de résister à toutes les attaques de l'ennemi sous quelque forme que ce soit, des attaques directes ou des attaques indirectes. Sixièmement, il connaît les leçons des Écritures.
Ah, ça c'est intéressant, n'est-ce pas ?
Connaître les leçons des Écritures. Quand tu passes par des épreuves, il faut que tu connaisses les leçons des Écritures. Il faut savoir sur quoi ça débouche. Il faut que la leçon te serve. Pour pas renouveler les mêmes bêtises et les mêmes erreurs. Les leçons du Seigneur, elles sont salutaires à salut. Amen. Elles t'amènent vers le salut. Septièmement, voilà, il prie sans cesse. Donc, frères et sœurs, nécessairement, l'enfant de Dieu qui est revêtu de toute l'armure de Dieu marche de victoire en victoire. Même si ça te paraît un échec, je te garantis que c'est une victoire. Tu vas voir la victoire se manifester. Même si sur le moment tu dis, c'est un échec, ne regarde pas l'échec, regarde à ce qu'il y a derrière, la victoire du Seigneur. Voyez-vous, il ne faut pas rester sur les apparences, il faut rester sur la foi. Toujours la foi, et toujours la foi, et toujours la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Seigneur. Celui qui est revêtu de l'armure marche nécessairement de victoire en victoire, son esprit constamment alimenté et fortifié par le Saint-Esprit demeure ferme et inébranlable. La maison bâtie sur le roc, elle peut subir des tempêtes, elle peut subir des ouragans, mais parce qu'elle est bâtie sur le roc, elle tiendra jusqu'au bout, ferme et inébranlable. Tu peux vaciller un peu sur ta base, parce que le coup est rude, mais dans le Seigneur, tu tiens ferme. Tu peux être comme le roseau, tu peux plier, mais ne point rompre. Alléluia. Le vent de l'épreuve. Oh, je plie. Seigneur. Il plie, mais ne rompt point. Il demeure ferme et inébranlable. L'Esprit de Jésus vient à son aide et le garde dans la pureté et dans la paix. Et je te garantis, quelque épreuve que tu passes, même si tu es une épreuve difficile pour ta vie, il y a quelque chose qui va te montrer que le Seigneur est avec toi, c'est la paix que tu as dans ton cœur. Quoi que tu passes, tu peux être à l'agonie et tu peux être à l'agonie dans la paix. Parce que tu sais en qui tu as cru. Amen. Tu sais en qui tu crois. Pour parler comme ça, il faut avoir une foi enracinée, établie et fondée dans le Christ. Que rien ni personne ne pourra nous séparer de lui. Ni la mort, ni la vie, ni ton épreuve, ni ton portefeuille aplati, ni rien de tout ça. Rien. Rien ne pourra nous séparer de lui et de son amour. Rien, de rien, de rien, de rien. Un tel homme, son intelligence est sans cesse renouvelée. Alléluia. Hein? Tu as l'armure complète de Dieu. Ton intelligence est renouvelée. Je dis même, ton intelligence est métamorphosée. Paul dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence pour comprendre la volonté de Dieu bonne, parfaite et agréable devant lui. Tu dois être intelligent dans le véritable. Tu dois être intelligent dans le Seigneur. Ton intelligence, elle vient pas de ton humanité, elle vient de la parole éternelle de Dieu. Le ciel et la terre passeront. L'intelligence des hommes passeront, l'intelligence des scientifiques passeront, l'intelligence de tous ceux qui prétendent être intelligents passeront. Mais la parole de Dieu, nada, elle passera jamais. L'intelligence que Dieu t'a donnée au travers de sa parole, elle demeure dans l'éternité. L'intelligence est sans cesse renouvelée et l'entendement est rempli de la lumière de la vérité. Si ton intelligence est renouvelée, tes entendements sont aussi remplis de lumière. ça sera plus l'entendement humaniste qui va te faire, n'est-ce pas, dire des choses à la manière humaine, mais tu diras des choses à la manière du Seigneur. Par exemple, tu diras, va mon frère, ta foi t'a sauvé. Tu pourras dire la parole de Dieu avec la puissance de Dieu dans ta bouche, par la puissance du Saint-Esprit. Tu diras une parole, la parole qui deviendra créatrice dans le cœur de l'autre, de ce que Dieu va faire avec lui. Nos paroles, ouennes de l'Esprit de Dieu, ouennes du bouclier de la foi, sont créatrices. Elles créent la vie. Comme Dieu nous a donné la vie, nous créons aussi la vie chez les autres. L'entendement est rempli de la lumière de la vérité qui arrache les voiles d'obscurité dans lesquelles Satan veut retenir les captifs. Oui, si ton entendement est renouvelé, n'est-ce pas? Si la lumière de la vérité est venue dans ton entendement, alors les dernières ténèbres qui restent dans tes raisonnements vont être ôtées par le Seigneur. Les ténèbres s'enfuient devant la lumière. Et quand la lumière vient t'éclairer, tous tes entendements humains sont balayés. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, quand l'intelligence est renouvelée, quand l'entendement est rempli de la lumière de la vérité, et cet entendement qui est rempli de la lumière de la vérité arrache les voiles d'obscurité dans lesquelles Satan veut retenir les captifs, alors tous les mensonges sont démasqués. Les mensonges sont démasqués. Parce que la lumière du Seigneur vient illuminer nos cœurs. Et Jésus a dit, c'est de vos cœurs que sortent toutes ces souillures. Les adultères, les meurtres, les envies, etc., etc. Ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche et qui va dans le lieu secret qui vous souille. C'est ce qui sort de votre cœur. Et quand le cœur est illuminé par la lumière du Seigneur, quand l'entendement est métamorphosé, renouvelé dans la lumière du Seigneur, quand les ténèbres sont arrachées de nos raisonnements humains, alors, frères et sœurs, voici ce que dit l'Écriture, les mensonges sont démasqués. Il n'est pas question de victoire sur le péché dans le combat spirituel. Il n'est pas question de victoire sur le péché. Cette victoire est considérée comme étant déjà remportée par le Seigneur. Nous parlons d'une victoire sur l'ennemi, sur Satan. Vous savez, ce Satan qui vient et qui va te rappeler tes fautes passées pour te culpabiliser et pour que tu te condamnes. Je vous rappelle, et je ne cesserai jamais de vous rappeler ces choses, c'est que pour ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, il n'y a plus aucune condamnation. Si du moins, frères et sœurs, vous marchez selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair, on est bien d'accord. Il n'y a plus de culpabilité dans les cœurs, parce que l'Esprit de Dieu nous ôte toute culpabilité, parce que l'Esprit éternel vient purifier nos consciences de toutes les œuvres mortes et nos consciences ne nous accusent plus. Trop de chrétiens se laissent accuser. Trop de chrétiens se laissent condamner. Si tu marches droit avec le Seigneur, tu n'as pas besoin de sentir cette condamnation dans ton cœur ni cette culpabilité. Alors tu démasques une œuvre de l'ennemi qui vient sur ton terrain pour essayer de te perturber. Ce soir, je dis qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Amen. Ça, c'est une bonne chose. Tous les mensonges sont démasqués et la pensée purifiée alors connaît la volonté du Seigneur. Enfin, le corps, parfaitement dominé par l'esprit, obéit à la volonté divine. Notre corps doit être dirigé par l'esprit de Dieu et non pas par les sentiments de notre âme. L'esprit de Dieu te communiquera toujours les valeurs du royaume de Dieu. Écoute-moi, l'esprit de Dieu te communiquera toujours les valeurs du royaume de Dieu. Ton âme encore qui manque de régénération. Parce que jusqu'à la fin, nous aurons à combattre ce corps de mort. Nous voyons bien que la chair n'est pas morte. Quand nous avons des discussions pour des petits problèmes des bécadis et que chacun se lève pour donner, c'est comme ça, tu sais, c'était pas comme ça. Moi, c'était comme ça, frères et sœurs. Et l'autre, il a fait comme ça, et moi, j'ai pas fait comme ça, et l'autre, il a pas fait comme ça. Et ça, c'est la chair. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est des personnes qui veulent s'auto-justifier, qui veulent imposer leur volonté aux autres. Moi, la seule volonté que je veux connaître dans ma vie, c'est la volonté du Seigneur. Jamais personne ici ne m'imposera sa volonté. Personne. Ni ma femme, ni aucun d'entre vous. Personne. Personne. Simplement que la volonté de Dieu. Et je saurai que je suis dans le bon chemin. Il n'est pas question de victoire sur le péché, mais de victoire sur Satan. L'appel que renferme le chapitre 6 des Éphésiens ne s'adresse pas au monde, mais s'adresse au peuple de Dieu. Vous avez compris que Paul, il n'écrivait pas aux gens du monde, il s'adressait à l'église qui est à Éphèse. Comme l'Esprit de Dieu s'adresse ce soir à cette église, au tabernacle. c'est pour le tabernacle et c'est pour toutes les églises qui voudront écouter, n'est-ce pas, la bonne parole de Dieu pour se dresser dans ces temps difficiles. Frères et sœurs, nous avons dit que dans ces derniers temps, c'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu qui dit expressément que dans les derniers temps, les choses seront comme ça. L'Église doit être armée. Et l'Église, c'est toi, c'est moi. Il faut pas que tu sois un enfant de Dieu avec une armure non complète, mais il faut que tu aies toute l'armure complète de Dieu pour résister au temps mauvais. Et Paul dit, nous ne devons pas ignorer ces desseins. L'ignorance, c'est la mère de tous les maux. Et Église, tu n'es pas ignorante quand tu es capable de me réciter le chapitre 6 des Éphésiens en entier. Tu n'ignores pas ce qui est écrit dans l'Écriture, mais est-ce que tu le mets en pratique? Il me vient à l'esprit un passage de l'Écriture que je vais partager avec vous, qui est dans l'Ancien Testament, qui est dans le chapitre 33 des Nombres, et au verset 54, et on va lire le reste. Gardez ce verset bien au fond de vos cœurs, même s'il est dans l'Ancien Testament, il a une valeur puissante pour nous aujourd'hui. Même si ce qui est écrit là est dit sur le plan terrestre, mais ce passage-là, il est sur le plan spirituel. Écoutez bien, c'est l'Éternel qui va parler à Moïse. Il dit au verset 54, « Vous recevrez le pays en héritage par le sort selon vos familles. À ceux qui sont nombreux, vous augmenterez l'héritage. À ceux qui sont peu nombreux, vous diminuerez l'héritage. Là où le sort lui sera échu, là sera l'héritage de chacun. Vous hériterez selon les tribus de vos pères. » Et verset 55, voilà, je vous conseille, soulignez ça au feutre jaune si vous pouvez, parce que c'est un verset tellement important. Voici ce que dit le Seigneur. « Si vous ne dépossédez pas de devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez de reste seront comme des épines à vos yeux et comme des piquants dans vos côtés. Et ils vous opprimeront dans le pays que vous habiterez. Il arrivera que je vous ferai à vous comme j'ai pensé de le faire à eux. » Voilà un verset intéressant. Voyez-vous, dans nos vies, frères et sœurs, si nous ne dépossédons pas, n'est-ce pas, les ennemis qui sont venus dans nos vies pour prendre possession d'une partie de notre héritage, le Seigneur dit, si vous laissez dans vos vies des choses qui traînent encore, ça sera pour vous comme des piquants dans vos yeux, des piquants sur vos côtés. Ils vous opprimeront. Ils vous opprimeront. Et moi, dit le Seigneur, qu'est-ce que dit le Seigneur? Il dit, si vous faites pas ça, voilà le résultat. Ils vous opprimeront dans le pays que vous habiterez. Il arrivera que je vous ferai à vous comme j'ai pensé de le faire à eux. Si vous n'avez pas compris ce passage, c'est que vous avez besoin que l'Esprit de Dieu vous éclaire. C'est tellement clair que dans nos cœurs, il ne doit avoir rien, mais rien, que l'ennemi puisse avoir une autorité sur nous dans un coin de nos vies. Parce que ça sera comme des épines dans nos yeux, comme des piquants sur notre côté. Il faut que nous dépossédions, nos cœurs de toute appartenance à une action de l'ennemi. Le Seigneur veut un cœur pur, un cœur entier. Il nous a donné les moyens d'avoir cette pureté de cœur et de cœur entier. Ne laissons pas subsister dans nos cœurs des reliques de péché qui traînent derrière lesquels nous nous camouflons, parce que ce n'est pas honoré de Dieu. Ce n'est pas honoré de Dieu. C'est lui faire injure que de laisser encore en nous des ténèbres. Alors, je me demande si l'intelligence ou l'entendement de ces personnes a été renouvelé encore par le Seigneur. Vous avez donc vu qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu qui n'est pas revêtu de l'armure de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas ce que c'est que le combat spirituel. Je vous avertis, frères et sœurs, je vous avertis. Les gens qui ne connaissent pas le combat spirituel, parce qu'ils sont aveuglés, parce que c'est dans l'Écriture, parce que s'ils avaient recours au Seigneur pour les éclairer, peut-être que le Seigneur leur ouvrirait les yeux. Mais ce sont des gens qui sont déjà hors de combat, qui sont déjà ligotés par le diable. J'ai un enseignement, quand vous allez le voir, vous allez comprendre à qui nous avons affaire. Il y a une guerre qui a commencé depuis la Genèse. Est-ce que vous le savez que la guerre, elle est depuis la Genèse? Mais quand est-ce qu'elle a commencé, cette guerre? Quand Adam et Ève ont chuté. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu écraseras la postérité de la femme, écraseras la tête du serpent, mais lui te mordra au talon. La guerre, elle est depuis longtemps. Et si on avait plus les yeux de l'esprit que nous avons aujourd'hui, nous pourrions voir dans toutes les Écritures cette guerre souterraine à l'état latent, n'est-ce pas? Où nous voyons Satan, par exemple, qui veut faire dresser Ésaü contre Jacob. Nous voyons des tas de choses dans l'Écriture. Nous voyons que Satan est venu s'opposer, n'est-ce pas, à David. Nous voyons plein de choses dans l'Écriture. Mais ça, c'est depuis le commencement, cette guerre. C'est pas une nouveauté, c'est pas une nouvelle doctrine, mais c'est depuis le départ. Église, réveille-toi! Alors nous avons compris à qui nous avons affaire. nous avons affaire à un menteur, nous avons affaire à un accusateur, nous avons affaire à un meurtrier. Je te garantis, s'il pouvait détruire ta vie, il la détruirait. Heureusement que tu es avec le Seigneur. Et heureusement que nos familles sont couvertes par notre foi. Heureusement. Ne trouvez-vous pas étrange, bien-aimé, que nous soyons dans une fournaise ardente? C'est Pierre qui dit ça, non, quelque part dans l'écrit. Qu'est-ce que c'est que cette fournaise ardente? Peut-être faut-il lire ce passage, parce qu'il est tellement instructif, ce passage de Pierre. Ça va peut-être nous remettre les idées en place. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimé, ne trouvez-vous pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu pour vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que Job, il a passé cette épreuve sans le consentement de Dieu? Dieu a permis. Qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Tu peux aller lui prendre tout, mais jusqu'ici, tu touches pas sa vie et pas plus loin. Mais bien, ne vous trouvez-vous pas étrange la fournaise ardente dans laquelle nous sommes? Alors, qu'est-ce que c'est que cette fournaise? Mon combat avec ma fille, mon combat avec mes fils, mon combat avec mon mari, mon combat avec ma famille, mon combat au-dedans, combat au-dehors, combat et combat. Et chaque fois que nous nous plaçons sur le terrain de la chair, il est là, il attend. Pour ceux qui ont vu la passion du Christ, nous voyons Satan. On le voit comme ça, comme un serpent, pas passer dans les foules et exciter les foules. Crucifie-le, tue-le. Elle m'embête, je n'ai marre, je veux plus l'avoir. Et allez en avant. Comme dit Pierre, il est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, pour cela, que dit l'Écriture? L'Écriture nous dit par la bouche de l'apôtre Pierre, dans la première de Pierre au chapitre 5 et au verset 8, 1. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire. Ah non, moi, j'ai pas d'adversaire, hein. Non, moi, je n'ai pas d'adversaire. Non, votre adversaire. Et il est adversaire de chacun d'entre nous ici ce soir. Ne vous leurrez pas, les jeunes. Il est votre adversaire. Ne vous leurrez pas, les anciens. Il est votre adversaire. Ne vous leurrez pas, les adultes. Il est votre adversaire. Comme un lion rugissant, rôdant autour de vous. Une situation conflictuelle, il est là. Si je peux pousser un peu, si ça peut déborder, c'est bien. Mais il faut réaliser. Il faut réaliser à ce moment-là que l'ennemi l'entraîne, que vous êtes en train de faire l'œuvre de l'ennemi, rôde autour de vous, cherchant qu'il pourra dévorer. Résistez-lui étant ferme dans quoi? Dans vos raisonnements? Ah, mais moi, je connais le combat spirituel. J'ai fait tous les séminaires des combats spirituels. Je connais de A à Z, de premier au... Mais je n'ai rien à faire de ça. Où tu as mis ta foi? Résistez-lui étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais Dieu, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même, souffert un peu de temps. Par qui? Par l'ennemi? Oui, il va y avoir des situations dans lesquelles tu vas souffrir et qui sont l'œuvre de l'ennemi. Mais c'est pour ton éducation, pour ta formation. Et je te dis, si tu as pris une baffe à la joue gauche, ne la retends pas une autre fois. Ne sois pas bête de la retendre. Que dit Pierre? Il nous dit de résister étant ferme dans la foi. Et lorsque vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Il vous affermira, il vous rendra lui-même accompli, il vous perfectionnera. Il vous fortifiera. Il vous établira sur un fondement inébranlable. N'est-ce pas? Les légères afflictions d'un moment ne sont rien en vue du poids de gloire à venir, dit le Seigneur. Alors, on va terminer par un qualificatif de l'ennemi. C'est le mot accusateur. Attendez, vous croyez que quand vous péchez volontairement, que...
Jésus me garde. Tu crois ça? Non. Écoute bien. Le mot accusateur... Nous le trouvons dans Apocalypse 12:10. Il est dit, j'entendis une grande voix dans le ciel disant, maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de qui? Ah bon? De nos frères. Vous croyez que dans le monde, ils s'appellent frères? Ah, pas dans une famille, d'accord. Mais les gens qui se connaissent, ils disent, bonjour frère. Non, ça, ils connaissent pas. C'est pas. Il dit, l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu, jour et
Alors tu peux faire ton petit cinéma, tu peux pêcher en camouflet, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux continuer à te moquer de Dieu. Merci de donner accès à Satan. Le mot accusateur, c'est un mot grec dans le Nouveau Testament qui est composé de deux mots, même de trois mots. Kategoros. Kate, c'est, il est dissocié en trois mots. Il y a la préposition kata. Kata en grec, ça veut dire contre, en opposition. Quand il t'accuse, il est contre et il s'oppose. On a des textes comme ça dans l'Écriture où nous voyons Satan s'opposer. Par exemple, à Josué, le grand sacrificateur, dans Zacharie. Nous le voyons de telles scènes devant l'assemblée de Dieu. Il est en train d'accuser. Ça veut dire, ce mot est cité une fois dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et là, à ce sujet-là, dans Apocalypse 12, 10, le mot kata, il a un sens d'hostilité et un sens de condamnation, ainsi qu'un sens d'opposition. Donc, il va s'opposer, il va te condamner. Tu vois ton serviteur là-bas en haut, ta servante, celle qui dit être ton enfant et qui fait n'importe quoi dans sa vie, qu'est-ce qu'elle mouffe? Tu la vois en bas. Jésus dit, moi je suis mort pour elle. Mais tu la vois quand même en bas, ce qu'a fait ton enfant là-bas qu'elle est en train. On n'a pas conscience de cette réalité. Pourtant, quelque chose qui se fait. Pourtant, Satan encore, il a accès devant le trône de Dieu. Vous le savez qu'il a encore accès. Ça, c'est un mystère. Il est capable de dire ton nom. Hein. Attends, là-bas, ton adresse, ton numéro de téléphone, il est capable de dire. Ensuite, kata, donc, on voit que c'est une préposition qui est dans un sens d'hostilité, de condamnation et d'opposition. Et le mot agoros, que vous connaissez, agora, c'est un lieu public, ça peut être une place publique, un marché public, où il y a les gens qui sont là. Donc, vous comprenez déjà qu'il peut se présenter en accusation devant un rassemblement. Mais lequel le rassemblement? Lequel? Et le mot agoro, le verbe agoro, veut dire maltraiter quelqu'un en parole, faire savoir, publier et proclamer. Catégoréma, par la parole, réma, par la parole. Alors voilà la traduction de ce verset de Apocalypse 12, 10. Une traduction plus littérale de ce verset dirait, contre nos frères, devant l'assemblée céleste, par le moyen de la parole, en les maltraitant en parole publiquement devant la cour céleste. C'est-à-dire qu'on vous met en discrimination devant l'assemblée céleste de Dieu. Tu vois ton enfant là-bas en bas, et toi tu continues à persévérer dans tes voies, tranquillement, tout le monde il est beau, il est gentil, je me couvre derrière ma religiosité et je continue mon micmac. Mais en haut là-bas, j'aurais honte. Franchement, au moment où je vous parle, j'aurais honte que mon nom soit cité devant l'assemblée céleste par le diable, en disant, tu vois, ton serviteur là, il accuse devant l'assemblée céleste, par le moyen de la parole, mais pas quelle n'importe quelle parole, des paroles qui maltraitent, qui discriminent, des paroles qui avilissent la personne, en parole, publiquement, devant la cour céleste. Et nous voyons dans Zacharie 3, un tel passage, Versets 1 à 5, il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. C'est-à-dire pour lui résister dans une notion de face à face. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te tense, Satan, que l'Éternel qui a choisi Jérusalem te tense. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? Et Josué était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et parla à ceux qui se tenaient devant lui, disant, qui c'est qui se tenait devant lui? Les anges. Ôtez de dessus lui les vêtements sables. Il lui dit, regarde, j'ai fait passer par-dessus toi ton iniquité. Je te revais d'habits de fête. Et je dis, qu'il mette une tiare pure sur sa tête. Ils mirent la tiare pure sur sa tête et le revêturent de vêtements. Et l'ange de l'Éternel se tenait là. Frères et sœurs, on a besoin d'avoir nos vêtements sales quittés. Pour que nous puissions rentrer dans le royaume de Dieu. Il t'accuse. Il m'accuse. Si je marche pas droit, si je suis pas dans l'intégrité de mon cœur, si je suis pas revêtu de toute l'armure complète de Dieu, alors oui, j'ai des soucis à me faire. Parce que si tu vois rien sur le plan naturel, si tu vois rien qui se passe sur ta vie sur le plan naturel, malgré tes micmacs, sache que toute œuvre viendra à la lumière devant le Seigneur. Et je vous le dis, je préfère rectifier ma vie maintenant que plutôt d'aller en enfer. Amen. Vous êtes pas de mon avis? Je préfère rectifier ma vie. Il y a encore le Saint-Esprit qui est capable de me faire me repentir, qui m'envoie un esprit de repentance et que je puisse dire au Seigneur, Seigneur, si je ne suis pas converti, convertis-moi. Je veux rentrer dans ton royaume. Je veux abandonner ma vie entre tes mains. Et le Seigneur le fera. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net